Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Première partie, chapitre 6. On frappe au carreau. Le quatrième jour fut un des plus froids de cet hiver-là. De grand matin, les premiers arrivés dans la cour se réchauffaient en glissant autour du puits. Ils attendaient que le poêle fût allumé dans l'école pour s'y précipiter. Derrière le portail, nous étions plusieurs à guetter la venue des gars de la campagne. Ils arrivaient tout éblouis encore d'avoir traversé des paysages de givre, d'avoir vu les étangs glacés, les taillis ou les lièvres d'étale. Il y avait dans leur blouse un goût de foin et d'écurie qui alourdissait l'air de la classe quand ils se pressaient autour du poêle rouge. Et ce matin-là, l'un d'eux avait apporté dans un panier un écureuil gelé qu'il avait découvert en route. Il essayait, je me souviens, d'accrocher par ses griffes au poteau du préau la longue bête raidie. Puis la pesante classe d'hiver commença. Un coup brusque au carreau nous fit lever la tête. Dressé contre la porte, nous aperçûmes le grand Maulne, secouant avant d'entrer le givre de sa blouse, la tête haute et comme ébloui. Les deux élèves du banc le plus rapproché de la porte se précipitèrent pour l'ouvrir. Il y eut à l'entrée comme un vague conciliabule que nous n'entendîmes pas, et le fugitif se décida enfin à pénétrer dans l'école. Cette bouffée d'air frais venue de la cour déserte, les brindilles de paille qu'on voyait accrochées aux habits du grand Maulne, et surtout son air de voyageur, fatigué, affamé, mais émerveillé, tout cela fit passer en nous un étrange sentiment de plaisir et de curiosité. Monsieur Sorel était descendu du petit bureau à deux marches où il était en train de nous faire la dictée, et Maulne marchait vers lui d'un air agressif. Je me rappelle combien je le trouvais beau à cet instant, le grand compagnon, malgré son air épuisé et ses yeux rougis par les nuits passées au dehors, sans doute. Il avança jusqu'à la chaire et dit, du ton très assuré de quelqu'un qui rapporte un renseignement, « Je suis rentré, monsieur. » « Je le vois bien, » répondit Monsieur Sorel, en le considérant avec curiosité. « Allez vous asseoir à votre place. » Le gars se retourna vers nous, le dos un peu courbé, souriant d'un air moqueur, comme font les grands élèves indisciplinés lorsqu'ils sont punis, et saisissant d'une main le bout de la table, il se laissa glisser sur son banc. « Vous allez prendre un livre que je vais vous indiquer, » dit le maître. Toutes les têtes étaient alors tournées vers Maulne, pendant que vos camarades finiront la dictée, et la classe reprit comme auparavant. De temps à autre, le grand Maulne se tournait de mon côté, puis il regardait par les fenêtres, d'où l'on apercevait le jardin blanc, cotonneux, immobile, et les champs déserts, où parfois descendait un corbeau. Dans la classe, la chaleur était lourde, auprès du poêle rougi. Mon camarade, la tête dans les mains, s'accouda pour lire. À deux reprises, je vis ses paupières se fermer et je crus qu'il allait s'endormir. « Je voudrais aller me coucher, monsieur, » dit-il enfin, en levant le bras à demi. « Voici trois nuits que je ne dors pas. »« Allez, » dit Monsieur Sorel, désireux surtout d'éviter un incident. Toutes les têtes levées, toutes les plumes en l'air, à regret, nous le regardâmes partir, avec sa blouse fripée dans le dos et ses souliers terreux. Que la matinée fut lente à traverser. Aux approches de midi, nous entendîmes, là-haut, dans la mansarde, le voyageur s'apprêter pour descendre. Au déjeuner, je le retrouvai assis devant le feu, près des grands-parents interdits, pendant qu'aux 12 coups de l'horloge, les grands élèves et les gamins éparpillés dans la cour neigeuse filaient comme des ombres devant la porte de la salle à manger. De ce déjeuner, je ne me rappelle qu'un grand silence et une grande gêne. Tout était glacé. La toile cirée sans nappe, le vin froid dans les verres, le carreau rougi sur lequel nous posions les pieds. On avait décidé, pour ne pas le pousser à la révolte, de ne rien demander au fugitif. Et il en profita de cette trêve pour ne pas dire un mot. Enfin, le dessert terminé, nous pûmes tous les deux bondir dans la cour. Cour d'école, après-midi, où les sabots avaient enlevé la neige, cour noircie où le dégel faisait dégoûter les toits du préau, cour pleine de jeux et de cris perçants. Maulne et moi, nous longeâmes en courant les bâtiments. Déjà deux ou trois de nos amis du bourg laissaient la partie et accouraient vers nous en criant de joie, faisant gicler la boue sous leurs sabots, les mains aux poches, le cache-nez déroulé. Mais mon compagnon se précipita dans la grande classe, où je le suivis, et referma la porte vitrée juste à temps pour supporter l'assaut de ceux qui nous poursuivaient. Il y eut un fracas clair et violent de vitres secouées, de sabots claquant sur le seuil, une poussée qui fit plier la tige de fer maintenant les deux battants de la porte. Mais déjà Maulne, au risque de se blesser à son anneau brisé, avait tourné la petite clé qui fermait la serrure. Nous avions accoutumé de juger très vexante une pareille conduite. En été, ceux qu'on laissait ainsi à la porte couraient au galop dans le jardin et parvenaient souvent à grimper par une fenêtre avant qu'on eût pu les fermer toutes. Mais nous étions en décembre et tout était clos. Un instant, on fit au dehors des pesées sur la porte, on nous cria des injures, puis un à un, ils tournèrent le dos et s'en allèrent, la tête basse, en rajustant leur cache-nez. Dans la classe qui sentait les châtaignes et la piquette, il n'y avait que deux balayeurs qui déplaçaient les tables. Je m'approchai du poêle pour m'y chauffer paresseusement en attendant la rentrée, tandis qu'Augustin Maulne cherchait dans le bureau du maître et dans les pupitres. Il découvrit bientôt un petit atlas qu'il se mit à étudier avec passion, debout sur l'estrade, les coudes sur le bureau, la tête entre les mains. Je me disposais à aller près de lui. Je lui aurais mis la main sur l'épaule et nous aurions sans doute suivi ensemble sur la carte le trajet qu'il avait fait, lorsque soudain la porte de communication avec la petite classe s'ouvrit toute battante sous une violente poussée, et Jasmin Delouche, suivi d'un gars du bourg et de trois autres de la campagne, surgit avec un cri de triomphe. Une des fenêtres de la petite classe était sans doute mal fermée et ils avaient dû la pousser et sauter par là. Jasmin Delouche, encore qu'assez petit, était l'un des plus âgés du cours supérieur. Il était fort jaloux du grand Maulne, bien qu'il se donnait comme son ami. Avant l'arrivée de notre pensionnaire, c'était lui, Jasmin, le coq de la classe. Il avait une figure pâle, assez fade, et les cheveux pommadés. Fils unique de la veuve Delouche, aubergiste, il faisait l'homme. Il répétait avec vanité ce qu'il entendait dire aux joueurs de billard, aux buveurs de vermouth. À son entrée, Maulne leva la tête et les sourcils froncés, cria au gars qui se précipitait sur le poêle en se bousculant.
On ne peut donc pas être tranquille une minute ici.
Si tu n'es pas content, il fallait rester où tu étais, répondit sans lever la tête Jasmin Delouche qui se sentait appuyé par ses compagnons. Je pense qu'Augustin était dans cet état de fatigue où la colère monte et vous surprend sans qu'on puisse la contenir. Toi, dit-il en se redressant et en fermant son livre, un peu pâle, tu vas commencer par sortir d'ici. L'autre ricana. «
Oh ! » cria-t-il. « Parce que tu es resté trois jours échappé, tu crois que tu vas être le maître maintenant ?»
Et, associant les autres à sa querelle,
« Ce n'est pas toi qui nous feras sortir, tu sais. »
Mais déjà Maulne était sur lui. Il y eut d'abord une bousculade. Les manches des blouses craquèrent et se décousirent. Seul Martin, un des gars de la campagne entré avec Jasmin, s'interposa.
« Tu vas te lasser !»
dit-il, les narines gonflées, secouant la tête comme un bélier. D'une poussée violente, Maulne le jeta, titubant, les bras ouverts au milieu de la classe. Puis, saisissant d'une main Delouche par le cou, de l'autre ouvrant la porte, il tenta de le jeter dehors. Jasmin s'agrippait aux tables et traînait les pieds sur les dalles, faisant crisser ses souliers ferrés, tandis que Martin, ayant repris son équilibre, revenait à pas comptés, la tête en avant, furieux. Maulne lâcha Delouche pour se colleter avec cet imbécile, et il allait peut-être se trouver en mauvaise posture lorsque la porte des appartements s'ouvrit à demi. Monsieur Sorel parut la tête tournée vers la cuisine, terminant avant d'entrer une conversation avec quelqu'un. Aussitôt la bataille s'arrêta. Les uns se rangèrent autour du poêle, la tête basse, ayant évité jusqu'au bout de prendre parti. Maulne s'assit à sa place, le haut de ses manches décousu et défroncé. Quant à Jasmin, tout congestionné, on l'entendit crier durant quelques secondes qui précédèrent le coup de règle du début de la classe. « Il ne peut plus rien supporter maintenant. Il fait le malin. Il s'imagine peut-être qu'on ne sait pas où il a été. » « Imbécile, je ne le sais pas moi-même, » répondit Maulne dans le silence déjà grand. Puis, haussant les épaules, la tête dans les mains, il se mit à apprendre ses leçons. Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Le gilet de soie. Notre chambre était, comme je l'ai dit, une grande mansarde, à moitié chambre. Il y avait des fenêtres aux autres logis d'adjoints. On ne sait pourquoi celui-ci était éclairé par une lucarne. Il était impossible de fermer complètement la porte qui frottait sur le plancher. Lorsque nous y montions, le soir, abritant de la main notre bougie que menaçaient tous les courants d'air de la grande demeure, chaque fois nous essayions de fermer cette porte, chaque fois nous étions obligés d'y renoncer. Et, toute la nuit, nous sentions autour de nous, pénétrant jusque dans notre chambre, le silence des trois greniers. C'est là que nous nous retrouvâmes, Augustin et moi, le soir même de ce jour d'hiver. Tandis qu'en un tour de main j'avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit, mon compagnon, sans rien dire, commençait lentement à se déshabiller. Du lit de fer au rideau de cretonne décoré de pampres, où j'étais monté déjà, je le regardais faire. Tantôt il s'asseyait sur son lit bas et sans rideau, tantôt il se levait et marchait de long en large, tout en se dévêtant. La bougie, qu'il avait posé sur une petite table d'osier tressée par des bohémiens, jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque. Tout au contraire de moi, il pliait et rangeait d'un air distrait et amer, mais avec soin, ses habits d'écolier. Je le revois plaquant sur une chaise sa lourde ceinture, pliant sur le dossier sa blouse noire extraordinairement fripée et salie, retirant une espèce de paletot gros bleu qu'il avait sous sa blouse et se penchant en me tournant le dos pour l'étaler sur le pied de son lit. Mais lorsqu'il se redressa et se retourna vers moi, je vis qu'il portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre qui était d'uniforme sous le paletot, un étrange gilet de soie très ouvert que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre. C'était un vêtement d'une fantaisie charmante, comme devaient en porter les jeunes gens qui dansaient avec nos grands-mères dans les bals de 1830. Je me rappelle en cet instant le grand écolier paysan, nu-tête, car il avait soigneusement posé sa casquette sur ses autres habits, visage si jeune, si vaillant et si durci déjà. Il avait repris sa marche à travers la chambre, lorsqu'il se mit à déboutonner cette pièce mystérieuse d'un costume qui n'était pas le sien. Et il était étrange de le voir, en bras de chemise, avec son pantalon trop court, ses souliers boueux, mettant la main sur ce gilet de marquis. Dès qu'il l'eut touché, sortant brusquement de sa rêverie, il tourna la tête vers moi et me regarda d'un œil inquiet. J'avais un peu envie de rire. Il sourit en même temps que moi et son visage s'éclaira. « Oh ! Dis-moi ce que c'est » fis-je, enhardi, à voix basse. « Où l'as-tu pris ? mais son sourire s'éteignit aussitôt. Il passa deux fois sur ses cheveux ras sa main lourde, et tout soudain, comme quelqu'un qui ne peut plus résister à son désir, il réendossa sur le fin jabot sa vareuse, qu'il boutonna solidement, et sa blouse fripée. Puis il hésita un instant en me regardant de côté. Finalement, il s'assit sur le bord de son lit, quitta ses souliers qui tombèrent bruyamment sur le plancher, et, tout habillé, comme un soldat au cantonnement d'alerte, il s'étendit sur son lit et souffla la bougie. Vers le milieu de la nuit, je m'éveillai soudain. Maulne était au milieu de la chambre, debout, sa casquette sur la tête, et il cherchait au porte-manteau quelque chose, une pèlerine qu'il se mit sur le dos. La chambre était très obscure. Pas même la clarté que donne parfois le reflet de la neige. Un vent noir et glacé soufflait dans le jardin mort et sur le toit. Je me dressais un peu et je lui criais tout bas. « Maulne, tu repars ?» Il ne répondit pas. Alors, tout à fait affolé, je dis « Eh bien, je pars avec toi, il faut que tu m'emmènes !» Et je sautai à bas. Il s'approcha, me saisit par le bras, me forçant à m'asseoir sur le rebord du lit, et il me dit « Je ne puis pas t'emmener, François. Si je connaissais bien mon chemin, tu m'accompagnerais, mais il faut d'abord que je le retrouve sur le plan, et je n'y parviens pas. Alors, tu ne peux pas repartir non plus. C'est vrai, c'est bien inutile. » fit-il avec découragement. « Allons, recouche-toi. Je te promets de ne pas repartir sans toi. » Et il reprit sa promenade de long en large dans la chambre. Je n'osais plus rien dire. Il marchait, s'arrêtait, repartait plus vite, comme quelqu'un qui dans sa tête recherche ou repasse des souvenirs, les confronte, les compare, calcule, et soudain pense avoir trouvé, puis de nouveau lâche le fil et recommence à chercher. Ce ne fut pas la seule nuit où, réveillé par le bruit de ses pas, je le trouvai ainsi vers 1 heure du matin, déambulant à travers la chambre et les greniers, comme ces marins qui n'ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leur propriété bretonne, se lèvent et s'habillent à leur réglementaire pour surveiller la nuit terrienne. À 2 ou 3 reprises, durant le mois de janvier et la première quinzaine de février, je fus ainsi tiré de mon sommeil. Le grand Maulne était là, dressé, tout équipé, sa pèlerine sur le dos, prêt à partir, et chaque fois, au bord de ce pays mystérieux où une fois déjà il s'était évadé, il s'arrêtait, hésitait. Au moment de lever le loquet de la porte de l'escalier et de filer par la porte de la cuisine qu'il eût facilement ouverte sans que personne ne l'entendît, il reculait une fois encore. Puis, durant les longues heures du milieu de la nuit, fiévreusement, il arpentait en réfléchissant les greniers abandonnés. Enfin, une nuit, vers le 15 février, ce fut lui-même qui m'éveilla en me posant doucement la main sur l'épaule. La journée avait été fort agitée. Maulne, qui délaissait complètement tous les jeux de ses anciens camarades, était resté durant la dernière récréation du soir assis sur son banc, tout occupé à établir un mystérieux petit plan, en suivant du doigt et en calculant longuement sur l'atlas du Cher. Un va-et-vient incessant se produisait entre la cour et la salle de classe. Les sabots claquaient. On se pourchassait de table en table, franchissant les bancs et l'estrade d'un saut. On savait qu'il ne faisait pas bon s'approcher de Maulne lorsqu'il travaillait ainsi. Cependant, comme la récréation se prolongeait, 2 ou 3 gamins du bourg, par manière de jeu, s'approchèrent à pas de loup et regardèrent par-dessus son épaule. L'un d'eux s'enhardit jusqu'à pousser les autres sur Maulne. Il ferma brusquement son atlas, cacha sa feuille et empoigna le dernier des 3 gars, tandis que les 2 autres avaient pu s'échapper. C'était ce hargneux Giroda, qui prit un ton pleurard, essaya de donner des coups de pied et, en fin de compte, fut mis dehors par le grand Maulne, à qui il cria rageusement « Grand lâche ! Ça ne m'étonne pas qu'ils sont tous contre toi, qu'ils veulent te faire la guerre !» et une foule d'injures auxquelles nous répondîmes sans avoir bien compris ce qu'il avait voulu dire. C'est moi qui criais le plus fort, car j'avais pris le parti du grand Maulne. Il y avait maintenant comme un pacte entre nous. La promesse qu'il m'avait faite de m'emmener avec lui, sans me dire, comme tout le monde, que je ne pourrais pas marcher, m'avait lié à lui pour toujours. Et je ne cessais de penser à son mystérieux voyage. Je m'étais persuadé qu'il avait dû rencontrer une jeune fille. Elle était sans doute infiniment plus belle que toutes celles du pays, plus belle que Jeanne, qu'on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure, et que Madeleine, la fille du boulanger, toute rose et toute blonde, et que Jenny, la fille de la châtelaine, qui était admirable, mais folle et toujours enfermée. C'est à une jeune fille certainement qu'il pensait la nuit, comme à un héros de roman, et j'avais décidé de lui en parler, bravement, la première fois qu'il m'éveillerait. Le soir de cette nouvelle bataille, après 4 heures, nous étions tous les deux occupés à rentrer des outils du jardin, des pics et des pelles qui avaient servi à creuser des trous lorsque nous entendîmes des cris sur la route. C'était une bande de jeunes gens et de gamins en colonne par quatre au pas de gymnastique, évoluant comme une compagnie parfaitement organisée conduite par Delouche Daniel Giraudat et un autre que nous ne connûmes point. Ils nous avaient aperçus et ils nous huaient de la belle façon. Ainsi, tout le bourg était contre nous, et l'on préparait je ne sais quel jeu guerrier dont nous étions exclus. Maulne, sans mot dire, remisa sous le hangar la bêche et la pioche qu'il avait sur l'épaule. Mais, à minuit, je sentais sa main sur mon bras, et je m'éveillais en sursaut. « Lève-toi, » dit-il, « nous partons. » « Connais-tu maintenant le chemin jusqu'au bout ?»« J'en connais une bonne partie. »« Et il faudra bien que nous trouvions le reste, » répondit-il les dents serrées. « Écoute, Maulne, » fis-je en me mettant sur mon séant, « écoute-moi. Nous n'avons qu'une chose à faire. C'est de chercher tous les deux en plein jour, en nous servant de ton plan, la partie du chemin qui nous manque. »« Mais cette portion-là est très loin d'ici. » « Eh bien, nous irons en voiture cet été, dès que les journées seront longues. » Il y eut un silence prolongé qui voulait dire qu'il acceptait. « Puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes, Maulne, » ajoutai-je enfin, « dis-moi qui elle est, parle-moi d'elle. » Il s'assit sur le pied de mon lit. Je voyais dans l'ombre sa tête penchée, ses bras croisés et ses genoux. Puis il aspira l'air fortement comme quelqu'un qui a eu gros cœur longtemps et qui va enfin confier son secret. Fin du chapitre 7. Chapitre 8. L'aventure. Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route. Et même lorsqu'il se fut décidé à tout me confier durant des jours de détresse dont je reparlerai, ce resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd'hui que tout est fini, maintenant qu'il ne reste plus que poussière de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure. À 1h30 de l'après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Maulne fit marcher sa bête bon train, car il savait n'être pas en avance. Il ne songea d'abord pour s'en amuser qu'à notre surprise à tous lorsqu'il ramènerait dans la carriole à 4 heures le grand-père et la grand-mère charpentier, car à ce moment-là, certes, il n'avait pas d'autre intention. Peu à peu, le froid le pénétrant, il s'enveloppa les jambes dans une couverture qu'il avait d'abord refusée et que les gens de la Belle Étoile avaient mise de force dans la voiture. À 2 heures, il traversa le bourg de la Motte. Il n'était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe et s'amusa de voir celui-là aussi désert, aussi endormi. C'est à peine si, de loin en loin, un rideau se leva, montrant une tête curieuse de bonne femme. À la sortie de la Motte, aussitôt après la maison d'école, il hésita entre deux routes et crut se rappeler qu'il allait tourner à gauche pour aller à Vierzon. Personne n'était là pour le renseigner. Il remit sa jument au trot sur la route désormais plus étroite et mal empierrée. Il longea quelque temps un bois de sapins et rencontra enfin un roulier à qui il demanda, mettant sa main en porte-voix, s'il était bien sur la route de Vierzon. La jument, tirant sur les guides, continuait à trotter. L'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait. Il cria quelque chose en faisant un geste vague et, à tout hasard, Maulne poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois seulement une pie s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudées sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid qui traversait maintenant la couverture, Maulne eut repris ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maulne voulait lui faire reprendre sa vive allure, mais elle continua à marcher au pas avec une extrême lenteur. Et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt, il sauta à terre, très inquiet. « Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train, » dit-il à mi-voix. Et il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante, à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin et qu'il n'était plus là sur la route de Vierzon. Il examina longuement le pied de la bête et n'y découvrit aucune trace de blessure. Très craintive, la jument levait la patte dès que Maulne ne voulait la toucher et grattait le sol de son sabot lourd et maladroit. Il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot. En gars expert au maniement du bétail, il s'accroupit, tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux, mais il fut gêné par la voiture. À deux reprises, la jument se déroba et avança de quelques mètres. Le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou. Il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse. Mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que Maulne dut sortir son couteau de paysan pour en venir à bout. Lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi étourdi et les yeux troubles, il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que Maulne eut immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin, ce chemin-là devait bien, à la longue, mener vers quelque village. Ajouté à toutes ces raisons que le grand gars, en remontant sur le marchepied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides, sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part, en dépit de tous les obstacles. Il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot. L'obscurité croissait. Dans le sentier raviné, il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture. Parfois une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec. Lorsqu'il fit tout à fait noir, Maulne songea soudain, avec un serment de cœur, à la salle à manger de Sainte-Agathe, où nous devions, à cette heure, être tous réunis. Puis la colère le prit, puis l'orgueil et la joie profonde de s'être ainsi évadé, sans l'avoir voulu. Fin du chapitre 8.